pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
C'est un canal qui va relier deux bassins. Donc ils ont prévu une grosse retenue d'eau. Cette bassine qui serait à Alaine, en fait c'est une retenue collinaire. 65 hectares, hein. La bassine c'est 65 hectares. Et avec une digue de 42 mètres de hauteur, 14 millions de mètres cubes d'eau. C'est l'équivalent de 22 fois la bassine de Sainte-Soline. Hein. Toujours dans leur démarche de greenwashing, ils disent qu'il ne va pas y avoir de consommation d'eau parce que le canal est étanche. Et donc ils vont pomper l'eau de l'Oise jusqu'à cette bassine-là. Un système de pompage qui est gigantesque, 14 mètres cubes à la seconde, enfin, c'est des pompes très très puissantes. La consommation électrique pour faire fonctionner ce canal serait équivalente à la consommation domestique d'une ville de 30 000 habitants. Donc c'est pas du tout un projet écolo, hein. C'est un projet très technologique et très énergivore. Et un canal de cette nature-là, il n'y a rien d'écolo, hein. C'est pour enrichir le BTP. Ouais.
Parce que les grands projets inutiles, ça sert surtout à engraisser les marchands de béton et de BTP avec des monstruosités comme cette gigabassine, grande comme 22 fois celle de Sainte-Soline, l'une des innombrables horreurs qui jalonnent le monstrueux projet du méga-canal. Méga-canal, méga-scandale. Méga-scandale écologique et méga-scandale financier. Coût annoncé par les promoteurs, 7 à 8 milliards d'euros d'argent public. Coût estimé, au moins 10 milliards d'euros pour le moment. 10 milliards raflés par les mafias Bouygues et Vinci. Méga scandale dans un assourdissant silence médiatique, en une période où l'on fait les poches des pauvres pour boucler le budget. Rares sont les médias qui informent sur le méga canal, dont le nom officiel est le canal Seine-Nord Europe. Pharaonique projet parfaitement inutile et destructeur. Tracé, prévu en parallèle d'un canal Compiègne-Cambrai déjà existant et qui n'est pas utilisé au maximum de sa capacité. Sans parler des lignes de chemin de fer qui existent déjà sur cet itinéraire. Les travaux du méga-canal ont déjà commencé. Objectif, 106 km de longueur, 54 mètres de large, 4,5 mètres de profondeur, 78 millions de mètres cubes de terre excavée, 7 gigantesques écluses sur le parcours, dont l'une donc équipée d'une gigabassine grande comme 22 fois celle de Sainte-Soline, superficie de la bassine 65 hectares, avec une digue de 42 mètres de hauteur pour une retenue d'eau de 14 millions de mètres cubes d'eau. Le méga canal, c'est en prévision 3300 hectares de terres agricoles détruites, ainsi que des zones humides et zones Natura 2000, plus de 300 espèces d'animaux protégés impactées, des paysages ravagés et des vies de riverains transformées en cauchemars, car les camions seront toujours là. C'est la méga arnaque. Salut les amis, c'est JBD pour Polémix et lavoixoff.com et votre radio libre préférée, Méga Canal, non merci. Et pour évoquer les horreurs et méga scandales de ce méga canal, nous allons passer une heure ensemble avec Lucie et Pterois, deux membres de Méga Canal non merci, rencontrés au festival Les Résistantes. C'était en Normandie en août 2025. Bonjour Lucie.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Pterois.
Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Ravi de vous rencontrer, hélas pour se raconter des choses pas drôles. Vous aurez peut-être entendu parler de ce grand projet inutile, mortifère et destructeur qu'on appelle le méga canal. Lucie.
Alors le méga canal qu'eux appellent le canal Seine-Nord Europe, c'est un canal qui fait partie d'une grande liaison Seine-Esco et qui vise à relier par le fluvial, la Seine, aux grands ports européens, donc à tout le réseau à grand gabarit en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Donc le but, c'est de faire passer des bateaux porte-conteneurs qui vont jusqu'à 4400 tonnes entre la Seine et l'Europe, le reste de l'Europe.
Mais il n'y a pas déjà des lignes de chemin de fer qui existent depuis le 19e siècle qui font ça ?
Si, il y a des lignes de chemin de fer, non seulement des lignes de chemin de fer, mais surtout un canal qui existe déjà et qui fait exactement le même trajet. Donc là, pour situer un petit peu géographiquement, on est entre Compiègne et Cambrai. Donc plus gros, on est entre Paris et Lille. C'est un trajet qui existe depuis des années, notamment depuis le canal du Nord, creusé au XXe siècle, entre Compiègne, un peu plus haut que Compiègne, et Cambrai, Aubin-Chelobac. Donc c'est un canal qui existe, qui est utilisé aujourd'hui pour du transport fluvial. Tout le long de ce canal, il y a des silos à grains, il y a des ports, etc. Et il est utilisé. Il n'est pas utilisé au maximum de sa capacité. Et aujourd'hui, ils veulent construire, plutôt que de changer ce canal-là, plutôt que de le rénover, plutôt que de l'entretenir, etc., ils veulent construire un nouveau canal juste à côté. Il fait exactement le même trajet. Il y a même des endroits où ils se chevauchent. Donc, ils envisagent de creuser 107 km de terre pour faire passer des bateaux plus grands.
Allez, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Oui, mais ça fera moins de camions sur la route, donc voilà, mon bilan carbone, tout ça.
Oui, oui, c'est leur argument. Ils se présentent comme un grand projet écologiste. Et c'est un argument qui essaye de parler aux habitants des Hauts-de-France, parce que tous les habitants des Hauts-de-France de ce coin-là, qui ont déjà pris la route, et notamment l'autoroute A1 qui relie Paris à Lille, ont toujours vu énormément de camions sur l'autoroute et trouvent ça parfois pénible, ça crée des embouteillages, etc. Le problème, c'est que on le sait, ce canal n'enlèvera quasiment pas de camions sur l'autoroute. À la limite, il pourrait peut-être, avec des grosses hypothèses en lesquelles on ne croit pas, réduire l'augmentation de camions sur l'autoroute. C'est-à-dire que le canal, pour sa rentabilité, se base de toute façon sur une augmentation constante du nombre de camions et de la quantité de matériaux et de marchandises transportées, que ce soit par la route ou par n'importe quel moyen de transport, et ils essayent d'en capter une petite partie. Sauf que bientôt, les camions, ils émettront moins de CO2, en tout cas, moins de gaz à effet de serre qu'aujourd'hui, parce que le parc des camions va être électrifié, et que les bateaux, même s'ils arrivent à faire fonctionner ce canal, ce qui n'est pas du tout sûr, même s'ils arrivent à transporter des marchandises sur ce canal, etc., on sait qu'ils vont prendre plus au ferroviaire qu'aux routiers. Donc ils vont participer à continuer à enterrer le fret ferroviaire qui fonctionne pourtant très bien et qui n'est pas du tout surchargé dans les Hauts-de-France.
On veut du fret ferroviaire, du fret, 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 du fret ferroviaire, du fret, 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 du fret ferroviaire. Farandole de wagon,
non.
Ça reste sur la digestion.
Ah.
Des politiques qui ringardisent les trains pleins de marchandises. Même si c'est plus écolo, le chef dit que c'est un torboyau. Plutôt qu'un bon verre de gnôle, Macron préfère les bagnoles. Et même si t'en as trop bouffé, tonton Manu va te caver. D'autoroute pleine de camions, d'eau fumée, de pollution. Et si la planète dégueule, et que le climat c'est le spell de cette grosse indigestion, c'est toi qui paieras l'addition. On a des goûts basiques, on aime le service public, les bonnes recettes de grand-mère. On veut du fret ferroviaire, du fret, 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 du fret ferroviaire.
Planète Boum Boum, on veut du fret ferroviaire ou fluvial, si c'est sur des canaux déjà existants.
Fret ferroviaire, nous on a des goûts basiques, on aime le service public, les bonnes recettes de grand-mère. On veut du fret ferroviaire.
Il y en a assez des cohortes de camions et de ces grands projets inutiles à la méga canal. 10 milliards d'euros d'argent public pour 106 km d'horreur bétonnée entre Compiègne et Cambrai. Réalisation qui ne ferait en rien baisser le nombre de camions. Terrois de méga canal, non merci.
Ils ont un slogan qui est 1 million de camions en moins. D'ailleurs, ils disent pas 1 million de camions en moins par rapport à quoi. Et donc, je vais vous dire, en fait, par rapport à quoi. Parce qu'en fait, ils ont fait une étude d'impact, ils ont présenté une étude d'impact de 13 000 pages, extrêmement fouillée, mais il y a des informations qu'on ne trouve absolument pas. Par contre, ils nous donnent quelques informations qui nous permettent de recalculer, au final, le nombre de camions qu'il y aurait sur le périmètre Senesco en 2035 ou en 2070. En 2025, il y aurait à peu près 89 millions de camions sur la route. Sur ce périmètre-là. En 2035, 97 millions de camions sur la route, 8 à 9 millions de camions en plus en 2035 qu'actuellement. Et en 2070, il y aurait 131 millions de camions sur la route. Donc en fait, il n'y a pas de millions de camions en moins. Ce qu'ils disent, c'est que par rapport à aujourd'hui, en 2035, il y aurait 8 millions de camions en plus sur la route s'ils construisent le canal. Et il y aurait 9 millions de camions en plus sur la route s'ils ne construisent pas le canal. Donc en fait, c'est un jeu de micmac, c'est un jeu de manipulation qui nous fait croire qu'il y aurait moins de camions. Mais en fait, eux-mêmes d'ailleurs nous ont dit, il y a un recours qui est en cours. Eux-mêmes ont reconnu que le trafic routier allait augmenter et qu'ils ne luttaient pas contre ça. Donc il faut juste voir ce canal gigantesque comme étant un soutien à la croissance du trafic de toutes les marchandises, à la fois du routier, du ferroviaire et du fluvial. Il n'y a absolument pas de remplacement de camions, mais c'est un soutien à la croissance.
Bon, j'essaie de me mettre dans la logique capitaliste qui est la maximisation des profits, etc. Bon, mais pourquoi ne pas se servir de ce qui existe déjà, toute l'infrastructure qui est déjà là, qui est déjà construite, pourquoi gâcher de l'argent, voilà. D'ailleurs, l'argent de qui? Et quand vous dites « ils », « eux », c'est qui en fait? C'est l'État, c'est des promoteurs privés, des marchands de béton? En fait, c'est quoi l'intérêt capitaliste même de la chose?
Alors, le discours officiel, c'est que c'est un projet qui est au service de la croissance. Parce que c'est la croissance, et donc plus de profits, plus de croissance. Plus
la croissance,
de...
c'est bien parce que ça fait de l'emploi.
Plus de bonheur. Et donc, ça ne les gêne pas d'ailleurs de nous dire que grâce au canal, il y aurait 50 000 emplois qui seraient créés en 2070. En 2070. Donc, c'est vrai qu'on ne se mouille pas trop en disant ce genre de choses. Sur les ports intérieurs, hein, des plateformes logistiques multimodales, ils appellent ça comme ça, qui seraient censées créer de l'emploi local. Alors déjà, il faut savoir que ça ne fait pas partie du budget des 8-10 milliards dont on a parlé. Hein. Il y a plein de choses qui ne font pas partie de ce budget-là. Et entre autres, à une époque, ils ont ressorti ces plateformes-là du budget pour essayer de dire « maintenant, ça ne coûte pas si cher que ça ». Ils ont dit qu'ils laissaient ça à l'initiative locale. Donc moi, je trouve ça génial. Ils disent « non, on ne va pas le payer. Maintenant, c'est les collectivités qui vont le payer et qui se démerdent avec ça ». Donc il y a 4 plateformes. Et là, ils nous disent, ben, grâce à ça, ça va permettre de créer plus de 3200 emplois sur toutes ces plateformes. En fait, il faut savoir qu'il y a déjà un historique sur lequel on peut s'appuyer. C'est que sur la Saône, à Pagny-le-Château, Pagny-sur-Saône, un port fluvial qui correspond à peu près à ce qui serait fait sur le canal, qui a été créé il y a 30 ans, et aujourd'hui, il y a 200 emplois. Alors qu'aujourd'hui, ils nous disent qu'il y aurait 3200 emplois, la réalité, c'est que sur un truc équivalent... 30 ans après, il n'y a que 200 emplois. Ce slogan de la création d'emplois est un mythe et c'est dégueulasse en fait. Hein. C'est un scandale de continuer à nous parler de création d'emplois alors qu'eux-mêmes savent qu'il n'y aurait pas beaucoup d'emplois qui seraient créés là-dessus. Mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, ils s'en foutent. Le but du jeu, c'est de créer la plateforme. Après, l'exploitation, ce n'est pas le problème. Hein. Et créer la plateforme, c'est du BTP, c'est des VRD, etc. La société du canal avec les 50 000 emplois, c'est qu'ils s'appuient juste sur des hypothèses de croissance irréalistes. En fait, ils disent qu'il va y avoir une croissance de 1,6% par an jusqu'en 2070. Et grâce à cette croissance-là, bah voilà, ça va amener plein de boulot. Alors, l'autorité environnementale, à plusieurs reprises, leur a demandé de prendre des chiffres un peu plus réalistes. Et donc, la société du canal a dit « oui, on va prendre des chiffres un peu plus réalistes. Donc, la première année, ça sera moins, la première année, ça sera moins, etc. Mais après, ça sera 1,6% de croissance par an jusqu'en 2070. » C'est-à-dire qu'en fait, la société du canal n'a absolument pas répondu sérieusement à l'autorité environnementale qui dit « écoutez, 1,6% par an, faut arrêter les conneries, c'est pas réaliste. » Donc, il y a ce premier cynisme, c'est que... ils partent sur des taux de croissance qu'on n'a plus rencontrés depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis le deuxième truc, c'est qu'aujourd'hui, le sujet, c'est quand même le dérèglement climatique. Il faut arrêter les conneries. La croissance nous amène dans le mur. Donc c'est important de réfléchir en termes de post-croissance. Comment on a une vie décente, comment on a une vie vivante, humaine, heureuse, satisfaisante, en étant dans des logiques où on ne cherche pas la croissance à tout craint de nos leaders capitalistes. Il y a une irresponsabilité face au réchauffement climatique à essayer de continuer à porter une croissance qui est en fait destructrice.
Résumé, le méga-canal ne ferait pas baisser le nombre de camions, bien au contraire, puisqu'il faudrait notamment desservir les ports. Et le méga-canal ne proposerait pas plus d'emplois. Mais qui est donc derrière ce canal Seine-Nord-Europe? Qui est ce « il »
Alors ce IL, en fait, c'est la société du canal Seine-Nord-Europe. C'est une SCI, c'est une société en fait financée par l'État. Hein.
Par nous, en fait, c'est avec nos impôts qu'on va payer cette horreur.
C'est que avec de l'argent public. C'est que avec de l'argent public, soit de l'Europe. 40% du budget serait pris en charge par l'Europe et 60% du budget serait pris en charge, une partie par l'État et puis une partie par la région et puis par les collectivités locales. Il y aurait 1 milliard qui serait pris par la région. Au final, ça reviendrait à chaque travailleur de la région Hauts-de-France à donner 500 euros. Aujourd'hui, hein, alors que le canal n'est pas démarré, on a déjà donné chacun 500 euros pour le canal.
Le canal, on estime qu'il va coûter au moins 10 milliards d'euros. Dans leurs estimations, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils étaient autour de 5-6 milliards. Il y avait eu un rapport financier public qui avait estimé que ça serait probablement plus entre 7-8 milliards. Pendant longtemps, ils ont dit non, on va rester entre 5-6 milliards. Bon, aujourd'hui, ils admettent qu'on sera entre 7 et 8 milliards, sachant que les travaux ont à peine commencé. On sait que ça va coûter au moins 10 milliards.
En fait, il faut voir que ce canal, en tant que tel, n'apporte aucune richesse. C'est juste pouvoir transporter des produits.
Pourquoi un canal alors que l'infrastructure existe déjà ?
Parce qu'en fait, ça vient en complément. Ça vient en complément du ferroviaire. Et d'ailleurs, il y a une position assez paradoxale, c'est que aujourd'hui, l'État détruit le ferroviaire, alors que dans les hypothèses sur lesquelles le canal s'appuie pour justifier sa rentabilité économique, il fait apparaître une croissance du ferroviaire. Donc oui, en effet, ça existe déjà. Le canal du Nord avait une capacité de 6 millions de tonnes par an à sa construction et à son ouverture. Aujourd'hui, il est utilisé à moins de 2 millions de tonnes, donc il y a encore tout à fait la possibilité de transporter pas mal de choses dessus. Concrètement, il y a des choses officielles, puis des choses plus officieuses. Je pense que ce qui est officieux, c'est le fait qu'il y a un budget de 8, 9, 10 milliards, ou peut-être le double, qui va pouvoir être confisqué, qui va pouvoir être utilisé par toute l'activité BTP qui va construire le canal. L'enjeu, je pense qu'il est plus au niveau de la construction du canal. Après l'exploitation du canal, en fait, je pense que l'État s'en fout. Il faut savoir que la Cour des comptes vient de faire une étude sur les canaux en France et on fait apparaître que juste pour pouvoir remettre à niveau l'ensemble des canaux en France, il faudrait 3 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, VNF, la structure, l'instance qui s'occupe de la maintenance des canaux, de l'utilisation, de l'exploitation des canaux, tous les ans, il lui manque 100 millions pour pouvoir boucler son budget et assurer la maintenance des canaux. Donc ça, depuis des années. Et il faudrait donc 3 milliards, non pas pour moderniser, mais juste pour maintenir, pour revenir à un niveau d'exploitation. Donc on voit bien que l'État, en fait, se fout complètement du fluvial. Et donc là, d'avoir un méga canal, c'est pas pour pouvoir valoriser le fluvial, c'est pour pouvoir taper dans l'argent public qui va être utilisé pour construire ce canal-là. Oui.
L'idée, c'est de détourner de l'argent public pour engraisser des marchands de béton. Mais en prétextant que c'est un projet écolo.
En fait, c'est ça, c'est souvent ce qu'on entend. On dit, attends, c'est un canal, c'est forcément bio, quoi. C'est forcément écolo, c'est mieux un canal que... Et un canal de cette nature-là, il n'y a rien d'écolo, hein. C'est pour enrichir le BTP. Ouais.
Et voilà, hein, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Votre serviteur a fini par percuter le pourquoi de ce méga canal à 10 milliards, tout simplement pour détourner de l'argent public vers les poches de Bouygues et de Vinci. Typiquement le genre de business où il n'y a jamais de mallette de fric qui passe sous les tables.
Une mallette de fric. J'ai tout bien compté. Il n'y a que 3 millions. Rappelle ton contact, il manque encore des ronds, tous au bassinet, ils vont encore cracher, faut qu'ils te remettent. Une mallette de fric en rouble, en yuan, en yen, une mallette, j'ai les liasses en main. Ça fait du bien, ils ont même mis des drachmes, ils ont vraiment plus rien. Mets-leur la pression, promets-leur la lune pour qu'ils te remettent. Une mallette de fric en francs suisses, en yen, en yuan, en dollars, en euros. Une mallette.
Tiens. Thibaut Hatt Robert Bourgie et sa mallette de fric, chansonnette tout à fait hors propos pour cette émission autour du méga scandale du méga canal à 10 milliards d'euros d'argent public, projet confié à des entreprises aussi vertueuses que Bouygues et Vinci. Cette horreur du méga canal Compiègne-Cambrai est un vieux serpent de mer en eau douce.
En fait, c'est un projet qui existe depuis 30 ans. Hein. Il y a eu un moment donné où il y avait un partenariat public-privé qui a été envisagé avec Bouygues et Vinci. Et Bouygues et Vinci se sont désengagés, voyant que le truc n'était pas rentable, pas utile, pas etc. Bouygues et Vinci se sont désengagés et c'est à ce moment-là que Xavier Bertrand a dit, alors je ne sais pas ce qu'il a dit vraiment, mais moi je le vois comme ça, il a dit c'est pas grave, nous on va le financer et puis on va vous demander de le construire. Et là Bouygues et Vinci ont dit, attends, c'est génial, donc on va le faire. Donc l'enjeu il est là, oui, c'est plutôt d'utiliser l'argent public plutôt que de faire vivre l'hôpital, remettre à niveau le ferroviaire qui est en train de se dégrader, remettre à niveau les 8000 km de voies fluviales aujourd'hui qui existent en France et qui sont plus exploitables.
Un projet qui, pour le moment, et d'ailleurs ça coûte toujours plus cher à l'arrivée, hein, ces trucs-là, 10 milliards d'euros, alors qu'il suffirait de 3 milliards juste pour entretenir tout ce qui existe de fluvial à l'échelle nationale.
Ouais, de remettre à niveau ce qui existe à l'échelle nationale. Alors c'est vrai que ce n'est pas des gros gabarits. Hein. Précisément, en fait, la Société du Canal annonce un budget, depuis des années, un budget de 5,1 milliards. Il y a eu une enquête publique et les commissaires enquêteurs, dans leur synthèse, on parlait d'un budget avant travaux de 7 à 8 milliards. Et ça, ça fait pratiquement un an. Mais depuis, la Société du Canal continue toujours à dire que ça ferait 5,1 milliards. Donc, en fait, il y a un mensonge assumé depuis au moins un an et puis beaucoup plus de temps que ça de la part de la Société du Canal sur le budget à prévoir. Oui. Je voudrais revenir sur un point qui est là aussi qui est choquant. Enfin, on parlait tout à l'heure du fait que c'est un canal qui est financé avec de l'argent public. Comment ils justifient économiquement leur micmac ? En fait, ils justifient économiquement leur micmac en disant que grâce au canal, puisqu'il y aurait moins de camions que s'il y en avait plus, hein, voilà, ils se payent sur ce qu'on appelle les externalités négatives du routier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce micmac ? Les externalités négatives, c'est des choses qui sont occasionnées par une activité, mais qui ne sont pas payées par l'activité. Par exemple, sur le routier, y a des pollutions, donc ça va entraîner des cancers, des maladies, etc. Il y a des accidents, il y a des embouteillages, donc on perd du temps. Toutes ces pertes-là sont des pertes qui ne sont pas payées par le routier. Donc le routier occasionne ce qu'on appelle des externalités négatives, des pertes, mais qui ne sont pas payées par le routier. Et donc le canal dit, grâce à nous, comme nous, on va permettre de réduire le nombre de camions, donc il y aurait moins de camions que s'il y en avait plus, et que toutes ces externalités négatives, ça coûte 10 milliards, nous, on va faire économiser 10 milliards à l'Europe, à la France, et c'est comme ça qu'on justifie le coût du canal. Des 10 milliards, c'est l'hôpital, c'est etc. La réalité, c'est qu'en fait, comme il y aurait 8 millions de camions en plus, c'est 80 milliards de dépenses supplémentaires. Eux, ils nous disent, oui, mais grâce à nous, il n'y en a que 80 milliards de dépenses, alors qu'il devrait y en avoir, s'il n'y avait pas le canal, 90 milliards. Donc vous voyez, il n'y a aucune économie de 10 milliards. Hein. C'est juste des dépenses qu'on ferait en moins que si on en faisait en plus. Donc c'est ça qui est assez choquant, c'est qu'en fait, de façon un peu caricaturale, ils se financent sur la destruction d'hôpitaux, sur tous les services étatiques, tous les services sociaux dont on a besoin justement pour répondre à toutes les externalités négatives du routier.
On va maintenant faire une pause dans cette spéciale méga canal avec Nino Ferrer qui avait très bien compris la menace de la bétonisation au nom d'un soi-disant progrès destructeur. 1971, la maison près de la fontaine.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et l'automne, l'enfance, l'éternité.
autour, il y avait le silence. Les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur. Se baigner tout noir avec les petites filles et les à l'usine et au supermarché. Les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré. L'essence, la guerre, la société. Pas si mal, et c'est normal, c'est le progrès.
C'est le progrès, c'est ce qu'invoquent toujours les promoteurs de grands projets inutiles, comme les 106 km d'horreur du méga-canal entre Compiègne et Cambrai. Méga-scandale à 10 milliards d'euros d'argent public, méga destruction écologique, comme vont vous l'expliquer Lucie et Pterois, de méga canal non merci. Alors là, on a parlé du volet financier. Évidemment, il y a un impact environnemental. C'est combien d'hectares de zones humides, de terres nourricières, lieux de vie qui seraient détruits potentiellement par cette horreur?
En termes de terres agricoles, on a comptabilisé 3300 hectares. De terres agricoles qui seraient détruites par le canal. Alors qu'on est en train de parler des terres les plus fertiles de France. Les Hauts-de-France, c'est un des terreaux de l'agriculture en France. Ils détruisent aussi des zones humides, des forêts, des zones Natura 2000. Ouais. Il y a une zone humide qu'ils ont dit qu'ils allaient conserver et protéger en faisant passer un pont canal au-dessus. C'est-à-dire que le canal, les bateaux vont passer au-dessus d'une zone humide. On leur fait confiance sur le fait que ça n'aura aucun impact sur la zone qui est en dessous. Globalement, ils n'ont pas énormément de contraintes. C'est-à-dire qu'il y a à peu près plus de 300 espèces protégées qui seraient impactées par la construction de ce canal. Ils ont obtenu des dérogations pour la plupart d'entre elles. C'est une partie du recours en justice que nous on porte, c'est qu'ils n'ont pas obtenu les dérogations pour toutes les espèces protégées. Mais ce canal promet apparemment tellement, que même si nous on n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il promet vraiment, mais il promet tellement d'écologie et d'emploi que toutes les autorisations sont bonnes à leur offrir. À un moment, ils passent dans une nappe phréatique. Parce que de toute façon, on a des ingénieurs qui sont tellement bons qu'ils sauront nous assurer que ça n'aura absolument aucun impact sur la nappe phréatique. Mais ce qui pour moi est le plus aberrant là-dedans, dans ce projet, c'est le manque de débat à tout niveau. C'est-à-dire qu'au début, je suis arrivée sur la lutte et je me suis dit « Ok, mais bon, peut-être que là, ils ont quand même discuté avec les gens du coin, peut-être que les gens du coin, eux, ils voient des intérêts, peut-être qu'ils ont discuté, ils ont essayé de trouver la meilleure façon de le faire. » Et en fait, une fois qu'on va discuter avec les gens, non, ils ont discuté avec personne. Ils ont à peu près décidé que ça allait passer là. De toute façon, ils promettaient tellement de bien. Ça fait 20 ans que tous les habitants du coin en entendent parler. Mais du coup, ça fait 20 ans, on parle d'un projet, ça ne va jamais se faire. Et donc, un projet qui ne va jamais se faire, où il y a 20 ans, on ne savait pas exactement où est-ce qu'il allait passer, il n'y avait pas tous les militants qui avaient travaillé pendant des heures et des mois et des années pour essayer d'apporter des contre-arguments. Donc, chacun n'avait pas forcément les outils pour avoir un avis réel sur ce projet. Et sauf qu'ils ont commencé à en parler il y a 20 ans, ça paraissait bien comme projet, on était en train de nous promettre des choses sympas, donc les autorisations ont été données, et maintenant les gens ont l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, parce que de toute façon ça a été décidé et on ne peut rien y faire. Même il y a 30 ans, il y avait déjà des personnes qui se battaient très localement contre ce projet. On a rencontré plusieurs agriculteurs qui ont déjà vécu des périodes très très difficiles à cause de ce projet et parce qu'ils s'y sont opposés. Et ça, c'était il y a 30 ans. Donc nous, on arrive un peu plus en force, en nombre aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que ça fait déjà 30 ans. Il y a déjà 30 ans, il y avait pas mal de personnes qui savaient que c'était un mauvais projet.
En termes de destruction, on en a beaucoup parlé, mais en termes d'alternatives, il faut voir que 3000 hectares de terres agricoles, d'une des meilleures terres agricoles de France, ça permettrait de faire bouffer 500 000 de personnes. À l'époque où on se dit le réchauffement climatique va nous amener des étés extrêmement chauds, l'activité agricole, la paysannerie va être très 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 endommagée, c'est important, c'est même essentiel, de nous réapproprier les moyens dont on a besoin pour répondre à nos besoins essentiels et d'avoir une robustesse alimentaire au niveau de la région, enfin que les gens puissent bouffer à partir de choses qui sont produites dans la région, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc se dire 3000 hectares, on va sacrifier plus de 3000 hectares pour fabriquer un canal, plutôt que d'avoir ces terres-là qui vont être utiles pour pouvoir faire bouffer 500 000 de personnes, le choix, il est vite fait. En tous les cas, pour des gens responsables, le choix, il est vite fait.
Ils essayent de faire des réductions de coûts de partout, des réductions de coûts qui paraissent à la fois pas très importantes et qui, en fait, montrent que ce canal n'est pas pour les habitants. J'ai envie de vous donner un exemple. Il y a un village dans les Hauts-de-France qui s'appelle Ytre. Une mairie, une église, et puis un petit peu espacé, il y a encore quelques maisons et un cimetière. Quand il y a un enterrement, tout le monde se regroupe probablement à l'église et ensuite fait un convoi ensemble, marche jusqu'au cimetière. Bon, aujourd'hui, il passe au milieu de deux champs sur une petite route de village. Et demain, peut-être, avec le canal Seine-Nord-Europe, ils vont devoir, entre leur église et leur cimetière, passer par un pont, parce que le canal va couper le village en deux. Et c'est à un des points les plus culminants, les plus hauts. Et donc c'est un endroit où le canal, pour passer, ils avaient le choix entre eux, soit construire une écluse de plus pour que les bateaux puissent arriver à cette hauteur-là, soit enlever des écluses et du coup creuser plus, et donc creuser plus bas. Donc là, entre leur église et leur cimetière, ils vont marcher sur un pont qui sera à 45 mètres du niveau de l'eau du canal. Ce pont, ça coûterait trop cher de le faire en alignement avec la route. Ils veulent le faire perpendiculaire au canal. Plutôt que de marcher tout droit, on va faire un détour juste pour éviter des coûts d'un canal qui ne sert à personne dans ce village, qui ne sert que des intérêts potentiellement capitalistes de grands groupes qui voudraient transporter des marchandises. Et on va jusqu'à impacter la vie littéralement des gens sans leur demander leur avis.
Ils ont un service de communication qui est très bien huilé et qui a très bien bossé. En fait, c'est un magnifique exemple de greenwashing très bien huilé. Par exemple, ils osent parler de bilan carbone et ils présentent un bilan carbone négatif. En fait, un bilan carbone négatif, c'est une forêt. C'est une forêt, c'est un arbre qui va absorber du CO2 et faire de la matière organique. Donc, sans aucun complexe, la Société du Canal Seine-Nord dit que grâce au Canal Seine-Nord, on va capter du CO2. Et ils osent présenter un bilan carbone négatif. Ce ne serait pas dramatique, on pourrait rire de ça en se disant il faut construire plein de canaux, comme ça, ça va nous permettre de régler notre problème de réchauffement climatique. Comme ça, il n'y aura plus de problème, puisque tout le CO2 va être capté. C'est d'un cynisme incroyable. Pour reparler du côté écolo, ils s'appuient sur beaucoup, beaucoup de compensations. En fait, les compensations, il faut voir plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a pas mal de compensations qui sont déjà des forêts. C'est-à-dire qu'ils ont acheté des forêts, et puis dire, maintenant, cette forêt-là va compenser des zones humides ou des zones naturelles qu'on va dézinguer. Et c'est déjà des forêts matures et compagnie. Donc il n'y a aucune amélioration, aucun gain là-dessus. Deuxième chose, ils vont mettre en place des compensations sur des zones déjà naturelles. Alors je pense par exemple au bois de l'Écureuil qui est à côté de Compiègne, qui est le long de l'Oise. Ils vont raser la forêt. C'est une forêt qui longe l'Oise, s'appelle une ripisylve. Ils vont raser la ripisylve. ils vont reboucher l'Oise. Alors déjà, on pourrait se dire, bah attends, déjà, de raser la forêt, de reboucher l'Oise, ça devrait être compensé, ça. Non, 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 c'est l'inverse. Ils vont raser la forêt, ils vont reboucher l'Oise, ils vont planter 2-3 merdes sur l'Oise rebouchée, et ils vont dire, ok, maintenant, ça, c'est une compensation. Grâce à nous, comme on a restauré, je ne sais pas, un endroit naturel, ça va nous permettre de dézinguer des zones humides par ailleurs. C'est tout à l'avenant des sinistres comme ça. Et le troisième point qui est assez révoltant, c'est que une grande partie de ce qu'ils appellent des compensations vont être réalisées sur des remblais. Parce qu'en fait, voilà, c'est en fait le plus grand chantier de tous les temps, hein, pour la France, hein, en termes de terrassement. Hein, c'est l'équivalent du canal de Suez ou du canal de Panama. Hein, c'est 78 millions de mètres cubes de terre, c'est énorme. Donc il y a beaucoup trop de terre, donc ils vont essayer de trouver toutes les solutions pour utiliser ces remblais-là. Et après, ils vont planter des trucs sur les remblais et dire, bah voilà, maintenant on a planté des trucs et ça va compenser. En fait, il faut comprendre la logique de la compensation. La logique de la compensation, c'est d'avoir des terrains qui soient naturels, de manière à ce que les animaux, quand les travaux vont démarrer, que les animaux puissent se barrer. Ça veut dire que les compensations doivent être antérieures aux travaux. Alors que là, ils vont planter des choses sur des remblais en disant, bah voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 3 ans, les remblais pourront servir de compensation. Mais c'est beaucoup trop tard. Hein. Et là, il y a une contradiction fondamentale sur la compréhension de ce que c'est qu'une compensation.
Les travaux ont déjà commencé ?
Oui, il y a une partie des travaux qui a déjà commencé au niveau de Compiègne, entre Compiègne et Noyon à peu près. Il y a aussi une partie tout au nord parce qu'ils sont en train de créer un port. Un de leurs arguments, c'est qu'ils essayent de faire venir leur matériaux de construction un maximum par le fluvial pour dire, voilà, on ne fait pas venir des camions, on est écologiste. Bon. Et donc, du côté de Compiègne, ils ont déjà commencé, surtout à Montmac et Tourotte, pour les gens qui connaissent le coin, ils ont déjà rasé une bonne quantité d'arbres à un endroit où c'est assez marquant. Je trouve que c'est un assez bon symbole de l'inutilité de ce canal et de son impact écologique, parce que c'est un endroit où on avait à la base la rivière Oise qui serpentait, et juste à côté le canal latéral à l'Oise, qui est un canal qui ensuite on peut passer par le canal du Nord pour rejoindre le Nord. Donc ce canal, il existe déjà, bon, très bien, il est là. Il est tout droit, et à côté, il y a l'Oise qui serpente. Et là, ils ont détourné le cours de l'Oise, donc ils ont réduit le serpent, pour creuser au milieu, à côté d'un canal qui existe déjà, sur lequel on voit des bateaux passer, un nouveau canal. Et on a un pont avec 3 arches. Une arche pour le canal qui existe déjà, une arche pour le canal qu'ils veulent construire, et une arche pour l'Oise. Et donc, ils ont complètement détruit cet endroit-là. Les personnes qui habitent ici, ça a complètement changé ce qu'ils voyaient. Ils ont détruit toute une zone naturelle. Ils ont détourné une rivière comme s'il pouvait y avoir aucun impact négatif à faire ça. Ils ont construit un immense pont de béton, et complètement hideux, évidemment, en plein milieu. Et ils sont en train de commencer les terrassements. Donc, pour l'instant, rien n'a été creusé. Ils ont commencé les terrassements ici, ils ont commencé des terrassements pour une écluse un petit peu plus haut à Noyon. Voilà, et ils ont commencé à couler du béton.
Sur les travaux, pourquoi c'est aussi pharaonique ? Bon, c'est les plus hautes écluses de France. Dans le projet initial, c'était même les plus hautes écluses d'Europe. En fait, c'est un canal qui va relier 2 bassins, et donc qui va passer par un point haut et puis redescendre en bas. Donc ils ont prévu une grosse retenue d'eau en haut, sur la portion du canal qui sera la plus élevée. C'est une retenue qui fait 14 millions de mètres cubes d'eau. C'est l'équivalent de 22 fois la bassine de Sainte-Soline. Hein. Au global, il y a 35 millions de mètres cubes, c'est 55 fois la bassine de Sainte-Soline. Et donc toujours dans leur démarche de greenwashing, ils disent qu'il ne va pas y avoir de consommation d'eau parce que le canal est étanche. Et donc ils vont pomper l'eau de l'Oise pour faire remonter l'eau de l'Oise jusqu'à cette bassine-là, qui va permettre après de faire fonctionner le canal pendant les périodes où ça serait un peu sec et les prélèvements dans l'Oise ne seraient pas suffisants pour donc le faire fonctionner. Donc il y a un système de pompage qui est gigantesque, 14 mètres cubes à la seconde, c'est des pompes très très puissantes. La consommation électrique pour faire fonctionner ce canal serait équivalente à la consommation domestique d'une ville de 30 000 habitants. Donc c'est pas du tout un projet écolo, hein, c'est un projet très technologique et très énergivore. Cette bassine qui serait à Alaine, en fait c'est une retenue collinaire qui serait retenue par un barrage de 42 mètres de hauteur. 65 hectares, hein. Juste la bassine, c'est 65 hectares. Et avec une digue de 42 mètres de hauteur qui la retiendrait dans une région où, voilà, c'est le bassin parisien, il n'y a pas de collines, il n'y a pas de montagnes. Hein. C'est des choses qui vont se voir de très loin.
Une de leurs compensations pour le village d'Alène, qui est juste à côté, quelques centaines d'habitants, ils vont planter des arbres en périphérie de la ville pour pas qu'ils voient la bassine avec la retenue d'eau de 40 et quelques mètres.
Le drain qui vit les terres de l'eau de la tourbière avons bouché le grand trou de poussière de plastique recouvert avons débâché avons pris la colère l'avons transformé en rivière de l'eau jaillit le feu de nos élans grandit l'espoir de l'eau jaillit le feu. De nos élans grandit l'espoir. Les tuyaux de ferraille et les pompes canailles avons démonté. Dans la fumée des gaz et sous le tir des armes avons crié. Avons pris la colère. L'avons transformé en rivière de l'eau jaillit le feu de nos élans grandit l'espoir de l'eau jaillit le feu de nos élans grandit l'espoir
de l'eau jaillit le feu pour évoquer la monstrueuse mégabassine prévue sur le trajet du mortifère mégacanal. Lucie de Mégacanal, non merci.
Quand on parle aussi de maintenir des compétences, nous, il y a un gros sujet autour du canal, c'est la batellerie. La batellerie, aujourd'hui, il y avait une société qui m'avait expliqué qu'il y avait à peu près 2500 entreprises artisanales autour de la batellerie aujourd'hui dans les Hauts-de-France, qui vivent de cette petite batellerie, etc. Et c'est des compétences, la batellerie. Et aujourd'hui, quand on parle avec les bateliers, c'est pas du tout les mêmes compétences nécessaires, c'est pas du tout les mêmes savoir-faire entre faire avancer une barque Fraissinet ou un bateau de la taille du canal du Nord et de faire avancer un porte-conteneur qui va jusqu'à 4400 tonnes. C'est pas du tout les mêmes compétences. Déjà, il n'y a pas de constructeur de ce type de bateau en France. Même pour un batelier qui devrait du coup potentiellement investir pour avoir un bateau de cette taille-là, la France ne prête pas ce type de somme d'argent. Donc ils vont devoir être sous pavillon néerlandais, sous pavillon belge, etc. Et c'est toute une compétence qu'on perd, même tout un mode de vie qu'on perd des bateliers. Et qui, eux, aujourd'hui, sont fiers de leur métier, sont fiers de ce qu'ils font. Et c'est des compétences qu'on n'aura plus, alors que je pense que ce sont des modes de transport de marchandises ou de transport autre qui sont beaucoup plus résilients face à tout ce qui peut arriver avec le réchauffement climatique, avec toutes les crises mondiales qu'on a aujourd'hui.
Alors ça n'a pas de rapport direct, et ce serait une information à vérifier, mais lors d'une conférence gesticulée là, il y a quelques jours sur ces porte-conteneurs géants qui sont des villes flottantes, la personne qui faisait la conf expliquait que les 20 plus gros porte-conteneurs du monde. Alors, il me montrait une photo de moteur. C'est un moteur qui est haut comme un immeuble de 5 étages et qui consomme 200 tonnes de goudron par jour pour avancer. Information à vérifier, mais la personne disait que les 20 plus gros bateaux, les 20 plus gros porte-conteneurs de la planète consomment autant que le parc automobile mondial et produisent autant de CO2, de particules fines. Les 20 plus gros bateaux consomment autant que toutes les bagnoles de la planète.
Là, tu parles plutôt de bateaux sur la mer. Hein. Oui. Là, c'est des choses beaucoup plus modestes, hein, mais c'est malgré tout...
C'est des porte-conteneurs bio qui avancent, c'est à pédale, non, c'est ça
ouais, on souffle dessus pour pousser avec les voiles. Non, non, les bateaux, en fait, 4400 tonnes, ne sont pas forcément porte-conteneurs. Hein. D'ailleurs, ça sera peu. Le trafic de conteneurs, c'est 15% du trafic. Hein. Le gros du trafic, c'est du vrac. Soit du vrac de céréales, soit des matériaux, du sable, de carrières, etc. En fait, c'est un bateau qui fait la longueur de deux terrains de foot. Deux terrains de foot sur 11 mètres de large, c'est un truc énorme. Hein. C'est un truc énorme, mais quand même sur la taille des canaux. Donc, ce n'est pas aussi gigantesque que ce que tu racontes.
Il va peut-être falloir parler de trucs un peu plus positifs, de qu'est-ce qu'on est en train de faire pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas, parce que là, sinon, on va tous...
Vous avez mentionné une lutte.
Il y a un collectif qui regroupe plein d'énergies différentes, qui s'appelle Méga Canal Non Merci. Vous pouvez chercher sur Internet, notamment pour avoir tous les argumentaires, des argumentaires courts ou des argumentaires détaillés, sourcés, etc. Même des vidéos, on essaye de donner tout ce qui est possible pour que ce soit le plus pratique en fonction des situations. Et après, évidemment, il y a plein d'autres associations ou plein d'autres collectifs qui se joignent à la lutte. Donc on a fait plusieurs actions, il y a eu une action symbolique à Compiègne où on est monté dans des arbres, où on a vu un déferlement de forces policières, de forces répressives qui n'avaient aucun sens par rapport à la taille de la manifestation et par rapport à la capacité bloquante qui était absolument nulle de la manifestation. C'était fin janvier, ça nous a lancé l'année avec une bonne idée de à quel point eux-mêmes, les forces répressives et les politiques qui sont derrière, étaient tendues sur ce sujet. Ils n'ont vraiment pas envie qu'il y ait de la contestation. C'est pas, il y a une contestation et on la réprime, c'est là, il faut pas que ça fasse de bruit. Donc nous, notre but, c'est de faire le plus de bruit possible, évidemment.
Effectivement, j'ai voulu venir vous voir et le temps que je check auprès des camarades de la radio Graphite à Compiègne qui diffusent cette émission, ils disent non, c'est bon, ils sont restés 3 jours et on les a fait descendre.
Pour ceux qui connaissent la CNAMO, il y a la CNAMO qui est venue en force nous descendre au bout de 2 jours.
La CNAMO, c'est la police des arbres.
Exactement, c'est la cellule nationale d'appui à la mobilité. C'est une unité de la gendarmerie qui avait été créée à l'époque pour descendre les militants contre les centrales nucléaires. Une unité de gendarmerie qui s'est montée dans les arbres. Donc,
les gendarmes écureuils.
Exactement. Tous les écureuils qui sont montés sur la 69 ou autre part connaissent très bien la CNAMO. Donc eux, ils sont débarqués. Ça n'avait aucun sens de les faire débarquer ici. Il y avait des gendarmes qui venaient de Douai, de machin. Enfin, même les policiers de Compiègne n'ont pas compris pourquoi il y avait eu autant de monde. Alors qu'il y avait 5 personnes dans les arbres et une 20aine au sol. Mais ça fait plaisir, ça veut dire aussi qu'on touche là où ça fait mal, quoi.
Toi l'écolo, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Toi l'écolo, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Les flics s'agitent comme Louis de Funès, dès qu'ils connaissent ton nom, ton adresse.
Les flics s'agitent comme Louis de Funès, dès qu'ils connaissent ton nom, ton adresse.
Toi l'étudiante, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Étudiant, tu l'as bien infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
Ton directeur t'a fait des promesses, mais on veut plus de toi au CNRS.
Ton directeur t'a fait des promesses, mais on veut plus de toi au CNRS.
Toi le routard, tu l'as t'es infecté, où t'as les symptômes, mais tu es contaminé.
Toi le routard, tu l'as t'es infecté, t'as les symptômes, tu es contaminé.
T'avais ton billet pour Mexico City, tu rêvais du Chiapas et t'as visité Roissy.
T'avais ton billet pour Mexico City, tu rêvais du Chiapas et t'as visité Roissy.
Toi le pépé qui donc te l'a donné, oh c'est du au moins qui t'a contaminé.
Toi le pépé qui donc te l'a donné, oh c'est du au moins qui t'a contaminé.
Ce n'est pas ta barbe mais ton petit fils qui tague chaque nuit, Jordi nique la police.
Ce n'est pas ta barbe mais ton petit fils qui tague chaque nuit, Jordi nique la police.
Toi le bébé qui donc te l'a donné, oh c'est du au moins qui t'a contaminé.
Toi, le bébé qui t'a donné, c'est tu au moins qui t'a contaminé.
T'as pas encore l'âge d'enfreindre la loi, mais tes parents t'ont appelé Oussama.
T'as pas encore l'âge d'enfreindre la loi, mais tes parents t'ont appelé Oussama.
Si je l'ai, tu l'as, si tu l'as, tu la passeras. Si je l'ai, tu l'as, si tu l'as, tu la donneras.
Si je l'ai, tu l'as, si tu l'as, tu la passeras. Si je l'ai, tu l'as, si tu l'as, tu la donneras.
C'est contagieux, c'est là que le bas blesse. Un jour, chacun aura sa fichesse. C'est contagieux, c'est là que le bas blesse. Un jour, chacun aura sa fichesse.
La bourrée des fichés S, les tabanards, joyeux collectif chantant qu'on a déjà beaucoup entendu dans nos émissions anti-bassines, avant de poursuivre l'évocation de la lutte anti-mégacanal avec Lucie, Mégacanal, non merci.
Un autre symbole, une jolie expression artistique, méga canal, 3300 hectares de terres agricoles détruites. Sur le château d'eau d'Ytre dont je vous parlais, et deux semaines plus tard je crois, le château d'eau a été détruit. C'était prévu qu'il soit détruit, hein, mais pas du tout à cette époque-là. Donc ils ont modifié complètement leur planning des travaux pour venir détruire un château d'eau sur lequel il y avait écrit « Méga canal, 3300 hectares de terres agricoles détruites ». Notre but, c'est de faire un maximum de bruit. Et notamment, il y a quelque chose qu'on fait que moi j'adore, c'est les réunions publiques. Donc on a fait des réunions publiques pour informer un petit peu loin. On en a fait à Lille, on en a fait jusqu'à Bruxelles même, on en a fait à Amiens, etc. Mais celle que je préfère, moi, c'est les réunions publiques sur le tracé. On a fait une série de 6 réunions publiques en quelques semaines, tout le long du tracé. En vrai, en tout, on en a fait bien plus. Et où on va dans les villages. Donc ça fait des petites réunions publiques. Parfois, il y a 10 personnes, parfois, il y en a même 30. On expose nos arguments. Moi, ce que j'essaye de dire à chaque fois que je vais à une réunion publique comme ça, c'est que je sais que je ne vais probablement pas les convaincre en une heure. D'ailleurs, je ne cherche pas forcément à les convaincre. Moi, si un jour, il y a quelqu'un qui vient à cette réunion publique et qui m'explique avec des arguments pourquoi, pour lui, directement, le canal va lui apporter quelque chose, moi, je serais ravie d'entendre quelqu'un d'autre que la Société du Canal et leurs deux arguments avec qui on n'a jamais d'échange concret sur l'impact réel du canal. Sauf que ça, on ne l'a jamais, en fait. Du coup, on fait des réunions publiques et les gens repartent avec une idée un petit peu plus claire de ce qui va leur arriver sur la gueule. Et on voit un vrai impact de ça et on va continuer toutes les réunions publiques. On va en faire de plus en plus et un peu partout. Il y a une spécificité, je trouve, sur ce canal, c'est qu'il fait 107 km de long. Il passe par 4 départements, donc c'est à la fois compliqué d'avoir un représentant. C'est très long, ça passe par à peu près 90 communes. Ça a l'avantage aussi de, du coup, passer par énormément de petites communes où on n'est pas à Paris pour aller voir Anne Hidalgo, c'est un petit peu compliqué, quoi. Là, le maire, c'est le voisin. Le maire, tout le monde le connaît, quoi. Et ensuite, les maires, ils sont organisés en communautés de communes. Et dans ces communautés de communes, ils s'organisent aussi entre eux. Et en fait, on commence à voir poindre une possibilité par ces moyens-là. Que le message passe, que les idées passent et qu'il y ait des échanges qui se créent entre les personnes qui habitent là-bas. Que ça fasse partie des discussions, des vies communales, et que du coup les maires et les communautés de communes commencent à s'allier pour prendre position ensemble, pour dire « attendez, là, ça va trop vite, on n'est pas d'accord avec tout le projet ». Alors nous, on voudrait dire que le projet s'arrête, mais que même eux, ils gagnent en compétences et qu'ils aient les outils pour ensuite s'unir et dire « non, en fait, là, on ne va pas faire comme ça, on va suivre nos termes, parce que là, vous êtes chez nous, en fait ». Parce que c'est vrai, en fait, à un moment, ils sont chez eux. C'est pas parce qu'il y a le président de la région, Xavier Bertrand, qui a décidé qu'ils allaient faire un projet comme ça, qu'il est obligé que ça se fasse. Sauf que, individuellement, c'est très compliqué. Au début, quand on allait voir un maire d'une commune, parfois, il pouvait nous dire « Ouais, je sais que ce canal, c'est de la merde. » Mais sauf que moi, si je dis que je suis contre, derrière, la région ou le département, ils vont me couper les financements. Et moi, si derrière, j'ai besoin de refaire la route départementale parce qu'elle est toute pétée, on va me dire « Ouais, t'inquiète, dans 3 ans. » Et donc, en fait, il y a plein de dynamiques comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de faire des réunions publiques au maximum partout pour que ce message passe. Il faut vraiment que l'information, elle passe et qu'il y ait des débats autour de ce sujet parce qu'il n'y a eu aucun débat. Pour revenir sur comment ce canal a été fait, en termes démocratiques, il y a une obligation pour les projets aussi gros, qui d'ailleurs est remise en cause par une loi en ce moment. Il y a une obligation, la seule obligation, c'est de faire une enquête publique. Ou enquête environnementale, je crois qu'elle s'appelle, je ne sais plus. Enfin, c'est une enquête publique, où ils sont obligés de dire « Ok, alors, on annonce, on va faire un projet comme ça. » Il faut qu'ils expliquent ce que c'est leur projet, sans aucune contrainte de lisibilité, de compréhensibilité, de taille du document. Donc, globalement, ils te mettent un document de 30 000 pages, hyper spécifique, hyper scientifique, hyper précis. Et ils disent « Ouais, alors, nous, on va faire ça. » Vous avez jusqu'à telle date pour venir nous dire ce que vous en pensez. Vous avez un mois. Bon, eux, en plus, pour au moins une partie du projet, l'enquête, ils l'ont publiée pendant le Covid. Donc vraiment, tout le monde avait la tête à ça. Et là, potentiellement, s'il y a des personnes qui sont organisées, s'il y a des collectifs, si machin, peut-être on peut réussir à avoir quelques centaines de personnes qui vont aller en mairie, qui vont se déplacer, qui vont écrire sur les cahiers, ça fait un peu cahier de doléances, et qui vont dire « non, moi je suis pas d'accord parce que ça, ça, ça ». Mais déjà, ça demande une énorme organisation de notre part, alors qu'eux, ils ont juste eu à publier un document technique que de toute façon, ils ont dans leur dossier. Et qu'eux, ils ont 100 personnes qui travaillent à temps plein sur la question. Et même si on arrive à avoir, je sais pas, 500 personnes, ce qui déjà est fou, qui vont aller en mairie, qui vont signer, qui vont machin, eux, la seule obligation qu'ils ont à dire derrière, c'est « Ok, on a lu ce que vous avez dit. » Point. Parce qu'en fait, on considère que pour une enquête publique, et ça, c'est le cas pas que pour nous, hein, c'est pour tous les projets en France, hein, dans une enquête publique, le peuple français est invité à s'exprimer. Donc, on a un panel de 70 millions de personnes. Donc, si on arrive à avoir 500 personnes qui sont contre, les 69 millions autres, bah, on considère qu'ils sont d'accord puisqu'ils ne se sont pas exprimés. Donc, bah, on va faire ce projet.
Question naïve. En justice, il y a la notion aussi d'utilité publique d'un projet. Est-ce que ça va être actionné ?
C'est déjà actionné. Ce projet est déjà reconnu d'utilité publique.
Ah oui, d'accord.
Oui, bah, pourquoi pas.
Il y a des recours en cours. Hein.
Là, c'est tribunal administratif ?
Ouais. Il y a des recours en cours, mais c'est extrêmement technique. Et c'est d'un cynisme. Enfin, moi, j'étais effaré de lire ce qu'on appelle les mémoires en réponse là, de la part de la Société du Canal, le cynisme avec lequel ils répondent. À la limite du mensonge, où en fait ils font des déclarations tronquées, c'est-à-dire qu'ils coupent les phrases pour ne reciter que des parties de phrases et pas la fin, ce qui fait que, voilà, en fait, ils trafiquent les déclarations qu'ils font. Enfin, c'est d'un cynisme incroyable. Je ne sais pas si je peux rentrer dans le détail, parce que ça va être chiant.
Parce que tout le monde est déjà bien assommé, hein, donc... Mais la reconnaissance d'utilité publique, elle ne peut pas être contestée. Tout ce que vous venez de raconter, là, on voit bien qu'il n'y a pas besoin d'être... expert justement pour voir que c'est complètement absurde et que ça ne fonctionne pas. La reconnaissance d'utilité publique peut-elle être, contestée ?
On est en plein dedans et en effet, on conteste la pertinence de l'intérêt public majeur, oui.
Ouais, ouais.
Et puis eux, bien sûr, bon, moi je ne suis pas juriste, hein, donc je découvre ça et je me rends compte que les choses légales sont quelquefois totalement absurdes. L'optimisation fiscale est tout à fait légale.
Ah, c'est de la fraude légale, oui.
C'est de la fraude légale. Bon, bah voilà, donc là, on peut faire un coup de business, pouf, pouf, et puis dire, voilà, c'est de l'intérêt public majeur. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez technique. Mais bien sûr, oui, on dénonce l'intérêt public majeur.
Sur le terrain et ailleurs, on y revient. Il y a une opposition, il y a un collectif.
Méga Canal, non merci.
Voilà.
Faut pas hésiter à nous joindre, à nous envoyer des mails. On est présent, on a un mail, on a une newsletter, on a tous les réseaux sociaux que vous voulez. On a de quoi vous accueillir pour les personnes itinérantes qui ont envie de passer, même si en dehors des gros événements. Faut pas hésiter à venir. Et on a deux gros événements qui arrivent. Alors tout d'abord, si vous aimez le vélo, du 21 au 24 août, on descend le canal à vélo. Ça s'appelle les débordantes. On va faire déborder le canal et en fait, on va donc vous montrer déjà la beauté des Hauts-de-France. On va vous montrer tout ce qui existe aujourd'hui autour de ce canal qui modèle la région, qui est le canal du Nord. On va vous montrer toutes les forêts qu'on voudrait qu'ils ne soient pas coupées. On va vous expliquer tous les tenants et aboutissants du canal. On va aller à la rencontre de toutes les personnes qui sont directement sur le tracé. On va faire la fête et on va parler de la question de l'eau, on va parler de la question du transport, on va parler de la question de la batellerie. Donc n'hésitez pas, du 21 au 24 août au niveau de Cambrai et de Compiègne. Et ensuite, du 10 au 12 octobre, là, ce sera un événement national organisé par les Soulèvements de la Terre et plus précisément par les Soulèvements de la Seine. C'est l'acte final des Soulèvements de la Seine qui regroupe plusieurs luttes du bassin versant de la Seine. Et donc, vous êtes les bienvenus. Ce sera autour de Compiègne. Il n'y a pas encore énormément de précisions parce que ce sera un gros événement et donc à suivre. Du 10 au 12 octobre. Jamais on se laisse abattre. C'est trop important.
Merci à vous les camarades pour cet exposé plombant mais nécessaire. Bah alors on fait comme on a dit.
Du 10 au 12 octobre, on vous attend en musique.
No pasarán.
No pasarán et no basarán non plus d'ailleurs. Conclusion de cette spéciale méga canal, méga scandale à télécharger via notre site polemixetlavoixoff.com. Avant notre prochain rendez-vous sur votre radio libre préférée, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.